puisque c'est là ce que veut l'écrivain, nous dirons que l'écrivain est, une fois pour toutes, s'il est vraiment un écrivain, responsable de la liberté humaine.
Et vous êtes bien donc sur Fréquence Paris Pluriel, la preuve en est. Et donc c'était Sartre que vous venez d'entendre. Pourquoi Sartre? Parce que Libération.
Aujourd'hui, on va parler de Libération, qui, je crois, est un peu quelque chose qui est dans notre quotidien. On est un peu tous lecteurs plus ou moins de Libération. À propos de la publication par Pierre Rimbert du livre Libération de Sartre à Rothschild, autant vous le dire tout de suite, c'est une histoire qui finit mal. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par le début, quand ça se présente plutôt bien, quand Libération est créée, ça se passe à quel moment, ça se passe dans quel contexte, qu'est-ce qui préside à la création de ce journal dont on vient d'entendre un extrait de Jean-Paul Sartre, dont Sartre est un des acteurs dès le départ. Pierre Rimbert.
Mais quand on interroge Serge July ou les dirigeants de Libération sur la naissance de ce journal, ils vous disent très souvent c'est l'enfant de 68. C'est les 68ards particulièrement entreprenants, des militants très dynamiques qui auraient créé ce journal, etc. Ça, c'est le mythe de Libération. La vérité, c'est que ce journal a surtout cristallisé un mouvement de critique des médias qui était très intense depuis 68. Et ce mouvement, il était triple, à vrai dire. Il y avait des militants qui critiquaient les médias dominants, qui critiquaient d'un côté la mainmise du gouvernement sur l'audiovisuel, sur la télé, c'était l'ORTF, et puis aussi la mainmise des industriels sur la presse. Il y avait aussi les politiques qui s'étaient emparées de la critique des médias, et puis en troisième lieu les intellectuels.
D'accord, donc avec... Vas-y Fred.
Oui, avec un projet quand même assez clair dès le départ. Il y a une citation dans votre bouquin. Donc Libération n'est pas un journal fait par des journalistes pour des gens, mais un journal fait pour les gens avec l'aide des journalistes. Et donc à cette époque-là, l'équipe de Libé se proclame unie sur l'essentiel. L'information vient du peuple et retourne au peuple.
Oui, alors effectivement, quand on relit ce genre de texte, c'est un peu pathétique. Libération, je disais, c'est un journal de critique des médias en 73. Un journal de critique des médias, quand on relit les textes fondateurs, vous pouvez lire des phrases du genre « Libération luttera contre le journalisme couché »,« Libération renversera le monde de l'information », etc. « Libération sera une embuscade dans la jungle de l'information ». Évidemment, tout ça peut paraître un peu terrible quand on voit Serge July assoupi au pied de Christine Ockrent le dimanche soir à l'émission France Europe Express. Mais au moment de la naissance de Libération, c'était pas du tout l'optique de s'assoupir au pied de Christine Ockrent. L'optique, c'était la suivante. Je vous cite un extrait du manifeste de 72. Aujourd'hui, la presse quotidienne donne la parole au patronat, aux politiciens, aux puissants, qui d'ailleurs financent cette presse, et elle se contente, quand elle ne peut pas faire autrement, de citer des bouts de phrases d'ouvriers et de paysans. Le quotidien Libération donnera la parole au peuple et citera des bouts de phrases de puissants. Il renversera le monde de la presse quotidienne. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, tout le début de cette profession de foi reste valable. La presse quotidienne donne toujours la parole au patronat, aux politiciens, aux puissants, qui financent toujours cette presse. Mais en revanche, Libération ne donne plus la parole au peuple ou aux paysans. Libération donne la parole à Alain Duhamel, qui est devenu son chroniqueur politique, ou à Nicolas Sarkozy, qui inonde les pages rebonds de Libération de tribunes. Donc il y a eu quand même un changement assez considérable. Alors, renverser le monde de la presse quotidienne pour Libération, comme tu dis, ça voulait dire changer déjà la manière de faire du journalisme. Changer la manière de faire du journalisme, c'est-à-dire que le journaliste, c'était pas quelqu'un qui se situait au-dessus des gens dont il parlait. C'était, dans l'esprit des fondateurs de Libération, un espèce d'écrivain public, un scribe du peuple. Il devait prendre la parole qu'il entendait chez les dépossédés et puis la restituer. Mais renverser le monde de la presse quotidienne, c'était aussi faire exploser la hiérarchie de l'information, c'est-à-dire la manière dont les grands journalistes, dont la presse dominante, va organiser l'information. C'est-à-dire que Libération traitait d'abord, et en premier lieu, des sujets que toute la grande presse négligeait. Les luttes sociales, les combats de gens peu connus, etc., etc. Et simultanément, Libération ne parlait pas, ou alors uniquement pour s'en moquer, des thèmes obsessionnels des commentateurs politiques, hein, l'éditorial, le commentaire politicien, bref, le genre de choses que Alain Duhamel fait quotidiennement dans plusieurs médias français. Et pour illustrer cette manière de faire du journalisme, il faut voir qu'il n'y avait pas de rubrique économie à Libération. Et ça, c'est assez important. La rubrique la plus prestigieuse du journal, c'était le secteur social. Et l'économie était traitée à travers le social, c'est-à-dire à travers le point de vue des salariés. Aujourd'hui, si vous ouvrez n'importe quel grand journal quotidien, à part l'Humanité, vous apercevez qu'il n'y a pas de rubrique sociale quotidienne. Vous avez une rubrique économie, une rubrique éducation, une rubrique faits divers, mais il n'y a pas de rubrique sociale. Le social, désormais, est traité à travers l'économie. Il y a eu un renversement complet. Et traiter le social à travers l'économie, ça veut dire traiter le social à travers le point de vue des décideurs, des cadres supérieurs, etc.
Et au départ, d'où venaient les journalistes de Libération ?
Eh bien, c'était des militants. C'était des militants, c'était des gens qui avaient l'intention de changer le monde. Cela dit, il y avait aussi des journalistes professionnels. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y avait à cette époque une grande mobilisation qui courait dans la presse. Ce n'était pas seulement des militants politiques qui décidaient de faire un journal. Il y avait aussi, à travers, dans le métier de journaliste, des professionnels qui étaient saoulés à la fois par la mainmise du gouvernement sur la presse audiovisuelle et par la mainmise des patrons de presse sur les titres de quotidiens.
Alors, il y a tout de même une connexion. On connaît surtout Serge Julie, mais dans quelle mesure il y a cette connexion avec les anciens de la gauche prolétarienne, d'un mouvement qui décide de se dissoudre en 73, un mouvement maoïste. Mais dans quelle mesure c'est un recyclage d'une partie de l'appareil politique de la gauche prolétarienne qui va créer Libération.
Il y a une partie effectivement du mouvement de la gauche prolétarienne, donc qui était un mouvement d'obédience maoïste.
Maoïste,
faut s'entendre. Hein, c'était surtout la contestation des anciens par les jeunes, la révolution culturelle chinoise, et puis une opposition à l'URSS. Alors c'était le mouvement, un mouvement maoïste en France, mais enfin la gauche prolétarienne, c'était surtout des étudiants de bonne famille de l'école normale supérieure, en tout cas en ce qui concerne ses chefs. Et qui était relayé par une base sociale assez étroite, hein, il y avait quelques milliers de militants. Mais il faut noter que c'était un mouvement qui avait tout de suite saisi l'importance de la médiatisation. Compte tenu de sa proximité avec le milieu intellectuel, puisque ses fondateurs étaient des gens de l'école normale supérieure, qui est l'espèce d'endroit d'où sortent les intellectuels les plus célèbres en France, de Sartre à Bourdieu, etc. Ils savaient pouvoir compter sur des grands intellectuels pour relayer leurs propos. Et du coup, des gens comme Jean-Paul Sartre s'étaient fait, en quelque sorte, les porte-parole de la gauche prolétarienne en distribuant notamment le journal La Cause du Peuple sur les marchés.
Alors, il y avait un autre aspect de quand Libération est créée. Moi, j'ai des amis. Alors, enfin, là, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans peuvent pas connaître, mais c'est que Libération était diffusée aussi de manière militante. Quoi. Il y avait des comités Libération qui distribuaient, qui diffusaient, qui vendaient le journal. Cette base militante, c'est-à-dire du haut jusqu'en bas pour le journal, ça se met en place comment et ça dure combien de temps?
La base militante, c'était un petit peu le recyclage des comités locaux de la gauche prolétarienne qui s'étaient recyclés en comité Libération, chargés d'assurer la diffusion du journal au plan local, mais aussi chargés de veiller à ce que le journal Libération soit bien présent dans les kiosques, étant entendu que les kiosquiers, très souvent, lorsqu'ils reçoivent un nouveau journal, le laissent en pile sans l'exposer. Et dans la grande presse, vous avez tout un corps de métier qui s'appelle les inspecteurs des ventes qui vont dans les kiosques pour s'assurer que la publication qu'ils sont chargés de promouvoir est bien présente en bonne place. Bon, c'était des militants qui jouaient ce rôle à l'époque, des militants initialement maoïstes, mais ensuite ça s'est très vite élargi puisque grosso modo la période maoïste de Libération s'interrompt en 74. Quoi. La première rupture, c'est un an après son lancement. Le premier numéro en kiosque est diffusé en mai 1973 et dès l'été 74, une bonne partie de l'équipe maoïste pure et dure a quitté le journal.
Alors si on continue en 74, ça va durer. Il y a cette première version de Libération qui va durer jusqu'en 81, si je me trompe pas. Il y a quoi dans le journal? Est-ce que la promesse initiale, elle est maintenue durant les premières années de Libération, à la fois dans son fonctionnement, dans la manière de traiter les sujets, dans la ligne éditoriale? Est-ce que la promesse est maintenue?
Bah ça, c'est à chacun d'en juger. Il faut relire les collections, mais l'une des promesses qui est tenue, c'est que Libération est un journal autogéré. Renverser le monde de la presse quotidienne, c'était aussi renverser l'économie de la presse. Et tandis que la plupart des journaux étaient détenus par des patrons de presse, Libération était détenue par ses salariés. Détenue par ses salariés, et ses salariés avaient aussi, au travers de l'Assemblée Générale, le contrôle du journal. C'est-à-dire que les décisions importantes dans la vie du journal étaient prises en Assemblée Générale. Enfin, il n'y avait pas de publicité dans Libération. Il n'y en a pas eu jusqu'en 1982. Donc, si on ajoute qu'il y avait aussi des salaires égaux pour tout le monde, de l'homme de ménage jusque à la personne qui assurait la rédaction en chef ou aux personnes qui assuraient la rédaction en chef, on voit qu'il y avait trois ou quatre piliers sur lesquels reposait le journal et l'autogestion. C'est primauté de l'Assemblée Générale, salaire égaux, pas de publicité et tout le capital aux salariés. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début des années 80, ces quatre piliers-là vont être mis à bas.
Alors avant d'en venir à ce moment-là, est-ce que ce journal marche? Enfin, il y a une question, c'est il y a un projet de renverser, de prendre sa place face à la presse bourgeoise. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils ont une diffusion qui correspond à leurs objectifs de départ pendant ces années-là?
Ben, les objectifs de départ, et c'est là toute la différence avec un journal marchand, c'est qu'il s'agissait moins de faire du chiffre et d'atteindre un objectif commercial que de faire passer des idées et de relayer des idées qui, elles, ne figuraient pas dans la grande presse. Et si on s'en tient strictement à cet objectif qui était de faire passer des idées qu'on ne voyait nulle part ailleurs, il était atteint. Parce qu'effectivement, Libération faisait toujours des choses décalées par rapport au reste de la presse. C'était une vision réellement subversive de l'information. Quand il y a le propriétaire du journal Le Parisien qui décède, Libération va titrer, je le cite, le titre de mémoire, mais le cheval d'Amaury sort indemne d'un accident, son propriétaire n'en a pas réchappé. Enfin, c'était quelque chose comme ça. On prenait l'actualité au rebours de tout ce que faisait la presse dominante. Et à l'époque, la télé avait beaucoup moins d'importance dans la diffusion de l'information. Et c'était la grande presse, Le Monde, Le Figaro ou d'autres journaux qui ont disparu depuis, qui faisaient la hiérarchie de l'information légitime, celle qui devait compter dans la vie politique. Et si Libération a aussi fonctionné, c'est parce que au sein même de cette grande presse, beaucoup de salariés en avaient ras-le-bol du fonctionnement à la fois économique et hiérarchique des médias dominants. Pour vous donner un exemple, de 68 jusqu'à 75, il y a tout un mouvement collectif qui se développe au travers des grands médias, c'est le mouvement des sociétés de rédacteurs. Là, on a vu que Libération était en grève, qu'il y avait eu des soucis à l'heure actuelle avec 4 jours de grève. Il faut savoir que c'est quelque chose de très courant dans les années 68-75, que les journalistes se groupent au sein de ces sociétés de rédacteurs pour défendre le droit de la rédaction contre l'appétit financier des patrons, que parfois ils y parviennent, que ces sociétés de rédacteurs, elles vont toucher jusqu'à 1/5 de l'ensemble de la profession. Et qu'est-ce qu'elles veulent? Eh bien, elles veulent d'abord pouvoir agir sur les décisions vitales de l'entreprise et pour ça prendre des participations dans le capital de l'entreprise. Alors ça, c'est très réformiste hein, comme revendication. Mais surtout, elles revendiquent que les sociétés de presse, les sociétés qui éditent les journaux, soient des sociétés à but non lucratif. Et ça, c'est assez intéressant parce que si vous étendez cette revendication à l'audiovisuel, ça signifierait par exemple qu'une entreprise comme TF1 n'aurait pas vocation à faire des profits. Or, on sait que TF1, c'est de la vache à lait de Bouygues. Ça dégage des profits assez astronomiques, un taux de rentabilité qui fait pâlir d'envie beaucoup de patrons. Et ces sociétés de rédacteurs vont mener des mouvements très durs. Donc là, il y a eu en novembre 4 jours de grève à Libération, mais il faut se souvenir qu'en 1969, il y avait eu 15 jours de grève au Figaro. Et c'est pas des gauchistes, hein, Le Figaro, c'était des gens bien sous tout rapport qui faisaient grève en costume cravate, avec ce qui ne s'est pas passé à Libération en novembre, des piquets de grève, occupation des locaux, et ils ont réussi à faire plier le propriétaire, Jean Prouveau, qui, à l'origine, voulait imposer un homme de paille à la tête de la rédaction. Donc 15 jours de grève en mai 69, au beau milieu de la campagne présidentielle, hein, l'élection était à la fin du mois. Donc vous voyez, il y a eu quand même, à cette époque, une espèce de rébellion de la part des journalistes français.
Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les études ne sont guère nécessaires pour les hommes que l'on dit ordinaires. 4% de fils d'ouvriers à l'université. Mais pour voter, même par une croix à signer, on vous incitera. Et si jamais trop nombreux vous refusez d'y aller, un jour, si vous n'y prenez garde, on vous y conduira par aiguillon électrique, à bétail pour aller plus vite, comme en Amérique. Mais c'était à Selma, à Alabama. C'est pas notre chair, c'est pas notre sang, on s'en fout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les étudiants ont manifesté, par la police ont subi des sévices. Mais c'était à Lisbonne, au Portugal. Mais cette fois c'était leur chair, c'était leur sang. Les bourgeois de la ville ont renié publiquement 40 années de gouvernement. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans nous, personne ne peut rien du tout?
Vous êtes toujours sur FPP dans les oreilles loin du front et on est en train de s'entretenir donc avec Pierre Rimbert qui a écrit Libération de Sartre à Rothschild chez Raison d'agir. Et on va aborder maintenant toute l'histoire justement des différentes ruptures qui ont fait évoluer de Libération depuis ses belles idées de départ jusqu'à la crise actuelle du quotidien. Et on peut, ce que j'ai trouvé assez surprenant en fait dans ton bouquin, c'est que Serge Joly, dont on vante souvent le maoïsme de départ, etc., a été finalement extrêmement tôt un des acteurs principaux des évolutions de Libération et aussitôt, dès 74 finalement, a commencé à abdiquer un certain nombre de principes de départ, comme par exemple celui de l'amateurisme du journal. Enfin, ce que lui définit péjorativement comme l'amateurisme, qui était au départ une volonté justement de faire un journal autrement.
Oui, c'est, on peut le voir comme ça, effectivement. Il y avait une partie de l'équipe qui donc voulait que Libération soit un écrivain public, qui voulait aussi que Libération soit absolument transparent à ses lecteurs. L'une des idées, c'était que tous les débats internes, toutes les contradictions, tous les conflits qui pouvaient se produire au sein de la rédaction devaient être rendus publics. Parce que, on n'a pas dit tout à l'heure, mais il y avait un élément assez important, c'est que Libération a été financée par ses lecteurs. C'est des souscriptions populaires qui ont permis d'accumuler le capital de départ pour que démarre ce journal. Et par conséquent, Libération se devait d'informer ses lecteurs sur ce qui se passait à Libération. Et bon, tout ça se passait dans un joyeux bordel, hein. Et il s'est aussi passé ce qui se passe souvent dans les organisations collectives qui regroupent plusieurs dizaines de personnes. C'est que certains travaillent 16 heures par jour et d'autres venaient une heure par jour pour tirer 3000 tracts et repartir. Bon, alors, il y a effectivement l'idée de professionnaliser rapidement le journal, d'en finir avec les titres qui faisaient trop gauchistes, d'abandonner un peu la ligne originelle, qui était une ligne de militantisme politique révolutionnaire. Mais d'un autre côté, il y avait aussi, et c'est tous les problèmes qu'on rencontre dans les petits groupes autogestionnaires, l'idée que les gens devaient s'impliquer pareil. Après tout, ils étaient tous payés pareil, et puis il y en avait qui travaillaient beaucoup, et d'autres qui étaient défoncés dans les canapés. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre cet aspect en compte. C'est peut-être pas inconnu de certains d'entre vous. Et bon, quand on le vit, on comprend peut-être aussi un peu la manière dont certains ont réagi à Libération. Cela dit, entre 74 et 81, l'idée de faire du journalisme subversif a été maintenue. Le journal a bien fonctionné rédactionnellement. Même si ça a été une série de crises successives, l'équipe s'engueulant en permanence, hein, mais ils ont inventé des choses intéressantes, quoi, sur le plan du graphisme, sur le plan des luttes sociales, et puis sur le plan de luttes dont personne ne parlait, les luttes de prostituées, qui a été pendant 75 notamment un des axes rédactionnels importants de Libération. C'était des choses dont personne ne parlait, les taulards. Là aussi, il y a eu beaucoup de papiers, enfin d'articles rédigés sur ce thème-là, les quartiers hauts de sécurité, Messrine, etc. Bon, ils ont inventé des choses, le journalisme de petites annonces. Hein, il y avait des suppléments petites annonces où les gens écrivaient directement qu'ils recherchaient la compagne ou le compagnon idéal, etc. Et tout ça fascinait les rédacteurs de la presse dominante parce que ça représentait un petit peu le journalisme qu'ils auraient aspiré à faire. C'était un journalisme désintéressé, toujours à la recherche de choses nouvelles, de choses dont on parlait pas, alors que eux étaient cantonnés le plus souvent à la ratification de faits, hein, ce que fait le journal Le Monde, enfin ce qu'il faisait, parce que maintenant aujourd'hui il fait même plus, c'est un journal de fausses coupes, de ratification de fausses coupes. Et Libération représentait une sorte d'idéal, hein, il y avait salaire égaux, le capital appartient à ses salariés. Bon, c'est un peu le journal des journalistes. Mais bon, il a tenu cette ligne pendant un bon bout de temps. Et l'une des ruptures aussi, c'est que pendant ce temps-là, il était aussi soutenu par beaucoup d'intellectuels. On l'a dit tout à l'heure, Sartre a été le premier directeur de Libération. Mais vous avez des gens comme l'écrivain Clavel, comme Michel Foucault, qui ont écrit dedans. Et les intellectuels, à cette époque, il faut voir qu'ils n'avaient pas le rapport de proximité aux grands médias qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous entendez parler d'un intellectuel, vous le voyez souvent sur un plateau de télévision, chez Ardisson, chez Fogiel, en train de vendre son livre, ou à la radio. C'est du téléachat permanent, ou du radioachat, pour essayer de vendre un produit qui est un livre. Il y a 30 ans, le rapport de proximité qu'ils entretenaient avec la grande presse était beaucoup plus distant. Et du coup, ça leur permettait une chose qui leur est beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est de critiquer la grande presse. Et le cas échéant, de soutenir des publications qui sont une critique en acte de la grande presse. C'est ce qu'était Libération. Et l'un des changements, je pense, ça a été aussi ça. Le contexte intellectuel a changé. Et puis, évidemment, le lectorat aussi a changé. Le contexte politique a changé. En 81, la gauche arrive au pouvoir. Et les lecteurs de Libération, qui avaient été gauchistes, qui avaient été des marginaux dans les années 60, 70, eux aussi se sont un peu rangés. Et je pense que ça explique pour beaucoup la naissance de la nouvelle formule de mai 1981, qui, elle, après 2 mois de cessation de parution, il y a eu une grande crise au sein de l'équipe, les gens se sont engueulés, le journal cesse de paraître pendant 2 mois, et en mai 81, il reparaît, et c'est le même titre, mais ce n'est plus tout à fait le même journal.
Alors justement, moi, ça m'a surpris d'apprendre que c'était concomitant avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, parce que dans mon idée, quand même, mai 81, c'est les espoirs, les de fous espoirs, et puis des trucs un peu gauchistes, où on se dit que l'autogestion, tout ça, ça a ses chances, et c'est à ce moment-là que Libération rompt, lui, avec ça. Il n'a pas été porté par cette vague, ou alors j'ai une fausse idée sur cette vague, ou ses espérances à l'époque.
Non, t'as pas une fausse. Enfin, moi, il me semble, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir en 1981, mais pas à Libération, parce que pour les chefs de Libération, c'est-à-dire ceux qui avaient survécu, qui avaient surnagé à tous les tourbillons au sein de la rédaction depuis 73, à savoir notamment Serge Julie, Marc Cravette, Bougreau, Griset, Péninou. C'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps, puisqu'ils militaient déjà ensemble à l'Union des étudiants communistes au début des années 60. Et ce sont vraiment des roublards de la politique qui connaissent par cœur les techniques de manipulation d'AG, comment remporter la majorité alors que vous êtes trois à penser la même chose et que tout le monde est contre vous, hein, refaire un vote sur les procédures de vote à 2h du matin alors qu'il reste que 15 personnes, c'est le genre de choses que eux maîtrisent parfaitement et que des jeunes qui sont arrivés plus tard dans le journal, eux, ne maîtrisent pas nécessairement. Mais bon, ce sont des techniques qui, sous prétexte d'autogestion, peuvent permettre à un petit groupe de gens décidés de reprendre la majorité dans une assemblée générale. Hein, ça, c'est des trucs assez connus. Et donc, eux, lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, ils sont déçus. Parce qu'ils n'avaient pas tablé sur la gauche mitterrandienne. Eux, ils avaient tablé sur la gauche rocardienne. Alors, c'est un peu différent, parce que la gauche mitterrandienne, c'est à la fois une gauche qui est très radicale, enfin, en 81, hein, en matière économique, puisque c'est les vestiges du programme commun, les nationalisations, etc. Et puis, qui est, disons, plus rigide en matière de société. Rocard, c'est l'inverse. La deuxième gauche, comme on l'appelle à l'époque, c'est des gens qui sont contre la loi, ils préfèrent le contrat, qui sont plus décentralisateurs. Ils préfèrent les associations, les trucs locaux, plutôt que l'État central. Et Julie et l'équipe dirigeante de Libération est un peu déçue que Mitterrand arrive au pouvoir. D'ailleurs, Julie va le dire dans un interview à la revue Esprit, très peu de temps après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Il dit « La gauche arrive au pouvoir avec, avouons-le, de la merde dans la tête ». Et pour lui, bien qu'à par la suite il va être fasciné par le personnage de Mitterrand, puisque Mitterrand avait cette caractéristique, dès qu'il sentait quelqu'un qu'il n'aimait pas beaucoup, il l'appelait. Et il le fascinait comme un serpent peut fasciner un lapin pour ensuite l'avaler tout rond. Et ça s'est passé sans difficulté avec Serge Julie, qui était quelqu'un d'assez infatué. Vous savez, dès que quelqu'un est assez fier de lui, infatué, il est très facile à fasciner. Donc Mitterrand le faisait venir en lui disant « J'ai quelque chose de très important à vous dire, là. Est-ce que vous pouvez venir ?» L'autre accourait ventre à terre, et Mitterrand lui confiait deux ou trois banalités, et Serge Julie avait le sentiment d'être dans le secret des dieux. Donc il y avait cette double relation. D'un côté, un Serge Julie fasciné par Mitterrand, mais une équipe dirigeante, y compris Serge Julie, un peu méfiante vis-à-vis de la gauche au pouvoir. Et donc, Libération, très tôt, va se mettre à pilonner les mesures économiques prises par la gauche. Les nationalisations de certaines industries, la sidérurgie, de la banque, du crédit, etc. Et du coup, il va apparaître comme un journal de gauche, mais d'opposition. C'est l'une des raisons de sa réussite au début du septennat Mitterrand.
Et de sa concurrence avec le Matin de Paris à l'époque.
Qui va réussir à couler et à démolir.
Alors, cette période-là qui s'ouvre donc à partir de 80, c'est le début des renoncements des quatre piliers dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'amorce d'abord là, c'est la fin de l'autogestion, l'arrivée de la pub aussi, qui est quand même quelque chose d'important dans Libé, et d'ailleurs qui est, je crois que Serge Julie trouve des mots pour justifier justement l'entrée de la publicité dans Libération. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça saisissant. Tu peux nous en parler un peu ?
Oui, mais peut-être avant d'aborder la destruction des quatre piliers qui soutenaient Libération, il faut voir qu'il y a eu une transformation de structure qui a porté cette démolition des quatre piliers. C'est que la société a changé, le lectorat de Libération a changé entre-temps, et notamment ses militants qui portaient Libération, eux aussi se sont embourgeoisés. Et c'est symptomatique que Libération des années 70, qui était un peu l'auberge des luttes sociales, se soit transformée à la fin des années 70 et au début des années 80 en un espèce de journal mouvement du conservatisme branché. Et alors, conservatisme branché, ça décrit vraiment ce qu'était Libération au début, parce que les journalistes et les lecteurs avaient avancé du même pas sur le chemin du vieillissement social. C'est-à-dire que ces gens qui étaient marginaux, dans les années 70, peu à peu, ils ont eu des emplois stables, ils ont eu des gamins, ils ont contracté des prêts immobiliers, ils ont desserré un cran de ceinture, ils ont sauté un échelon dans le paiement des impôts, etc. Et du coup, au début des années 80, enfin même en décembre 82, vous avez une enquête sur le lectorat de Libération qui est réalisé, d'ailleurs pour les besoins de la publicité que tu évoques, et qui montre que 6 lecteurs sur 10 de Libération sont passés par l'université, c'est-à-dire une proportion très très supérieure à la moyenne nationale. L'enquête montre aussi que 1/4 des lecteurs se classent dans la catégorie affaires et cadres supérieurs. Voilà, c'est 3 fois la moyenne nationale. Donc ce sont des gens qui, du point de vue de leurs intérêts matériels, sont portés vers un certain conformisme. Au fond, la société telle qu'elle est leur convient, du point de vue matériel. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Ils n'ont aucun intérêt à changer le monde.
Ce ne sont pas ou ce ne sont plus.
En 80, ce ne sont plus. Ils n'ont aucun intérêt matériel. En revanche, sur le plan culturel, sur le plan de leur goût culturel, ils ont conservé les idées des années 60 et 70, c'est-à-dire une sensibilité aux ruptures formelles, à l'avant-garde des années 60, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est complètement récupérée par la pub et par le marketing dans les années 80. Et du coup, la ligne politique de Libération, la ligne rédactionnelle, va être en accord avec ces lecteurs-là, c'est-à-dire orthodoxie économique et excentricité culturelle. Et c'est la spécificité de Libération au début des années 80, parce qu'il n'y a que ce journal, dans les grands quotidiens, qui peut porter le libéralisme économique dans ses pages économie et la subversion culturelle dans les pages société. Et ça, c'est ce que Serge Julli avait déjà théorisé à la fin des années 70 comme la ligne libérale-libertaire. Et ça va avoir un rôle assez important, parce que Libération va jouer le rôle de salon d'essayage de la pensée de marché. C'est-à-dire que des lecteurs, anciennement marginaux, vont pouvoir trouver dans Libération une sorte de cabine d'essayage où ils enfilent les vestons de ce qu'on appellera la pensée unique en économie, mais tout en restant à l'abri d'un rideau d'audace culturelle, d'audace sexuelle, artistique, etc. Parce que c'est quoi Libération au début des années 80? C'est l'apologie de la rigueur économique, avant même qu'elle soit décrétée par les socialistes, et en même temps des bandes dessinées érotiques. C'est la célébration de la libre entreprise, des petits entrepreneurs individuels, et en même temps la célébration de Coluche, de l'humanitaire, de ce genre de choses. Hein, c'est vous avez des récits de soirées déjantées dans les catacombes, et puis en même temps une apologie de Philippe de Villiers, qui est le jeune entrepreneur de la Vendée dans l'émission Vive la crise, hein, l'émission qui a été co-réalisée avec Libération. Et donc cette ligne libérale en matière économique, libertaire en matière de questions de société, c'est grosso modo, on tricote dans le même gilet les idées de Raymond Barre et les élans de Coluche.
Alors, à cette époque-là, qui fréquente Libération? Parce qu'il y a aussi... ça devient un journal qui est aussi perméable à, enfin, en tout cas, qui s'est éloigné des idées, donc, comme tu viens de le décrire, des idées, disons, gauchistes. Qui c'est qui commence à fréquenter Libération et à rentrer soit dans la rédaction, soit dans le Capital un petit peu plus tard?
Alors, dans la rédaction, et c'est un des agents du changement, des facteurs du changement, c'est des jeunes journalistes qui n'ont pas été spécialement militants dans les années 70, c'est des gens qui ont fait Sciences Po, qui sont tout jeunes, qui ont les dents très longues, hein, ça raye le parquet, c'est comme Laurent Geoffrin, Pierre Briançon. Alors Laurent Geoffrin, vous connaissez peut-être, c'est celui qui dirige la rédaction du Nouvel Observateur. Pierre Briançon, maintenant, qui a été donc le chef du service économie de Libération, écrit actuellement des éditoriaux dans un des quotidiens gratuits, et puis aussi dans le Wall Street Journal, hein, qui est le journal des milieux d'affaires américains. Alors, d'un côté, dans la rédaction, on embauche des jeunes journalistes de Sciences Po, enfin passés par Sciences Po, passés aussi par la presse professionnelle économique, qui, eux, n'ont aucun problème avec le libéralisme économique, la compétition économique, que le meilleur gagne, etc. Et puis, de l'autre côté, Libération va ouvrir son capital. C'est-à-dire que au début des années 80, le journal a besoin de sous pour se développer. La direction est saisie par une espèce de folie des grandeurs. Ils se disent, les années 80, c'est les années du multimédia, il faut s'investir dans la télé, dans la radio, dans les boîtes de production, dans l'investissement des pays de l'Est, pour les journaux des pays de l'Est. Et de 82, grosso modo, jusqu'à la fin des années 80, jusqu'au début des années 90, Libération va essayer de se constituer en groupe multimédia. Il va lancer une radio, Radio Libération. Il va lancer une télé, Télé Libération. Il va lancer une agence de presse, qui existe encore hein, à l'heure actuelle. La télé et la radio, ça a foiré. Mais la radio, ça devait être une radio d'information en continu. Hein, c'est un précurseur de France Info, en quelque sorte. Toutes ces idées ont été lancées. Et pour lancer tout ça, il fallait du capital. Et pour obtenir ce capital, Libération a brisé l'un des quatre piliers qui soutenait. C'était l'ouverture de son capital à des investisseurs extérieurs. Et en janvier 83, pour la première fois, vous avez des investisseurs extérieurs qui prennent 10% du capital de Libération.
Qui étaient ces investisseurs ?
Mais juste avant ça, comment ça passe dans parce qu'il y a une culture au sein de Libération. Qu'est-ce qui fait que ça passe quoi ? Qu'est-ce qui fait que ce truc-là passe ? Est-ce que c'était un petit peu pour eux ? Est-ce que l'époque voulait ça ? Est-ce qu'ils ont bien manipulé ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça cède sur ce pilier-là ?
D'abord, une partie des contestataires a été virée, donc ça aide à faire passer les réformes en douceur, puisque au milieu de la crise de 1981, hein, je rappelle, c'est le moment où Libération s'arrête pendant 2 mois, tous les pouvoirs ont été donnés à Serge Julie pour qu'il reconstitue l'équipe selon son bon désir. Et du coup, il va virer les gens les plus agités et recruter, on vient de le voir, des jeunes beaucoup plus disposés à faire un journal moderniste. Alors moderniste, hein, dans les années 80, ça a le même sens qu'aujourd'hui, mais pas le même sens qu'il y a 200 ans. Ça veut dire libéral. Libéral en matière économique. Et parmi les gens qui investissent dans Libération, les investisseurs de 83, justement, vous avez des patrons. Des patrons qui se disent modernistes. Et ils sont une cinquantaine à investir des sous, pas beaucoup, hein, c'est juste une prise de participation qui serait considérée comme symbolique par des grands financiers. C'est quelques millions de francs nouveaux. Mais vous avez le patron du Club Med, vous avez le patron de Danone, vous avez le patron de Schlumberger, qui vont investir quelques francs, enfin quelques dizaines, centaines de milliers de francs dans Libération. Et puis aussi des intellectuels qui investissent de l'argent, des gens comme Alain Minc, qui va investir de l'argent dans Libération, des hauts fonctionnaires aussi. Et bref, un petit pool de gens qui voient dans Libération le journal capable de porter leurs aspirations. Et qu'ont-ils en commun, ces patrons, ces intellectuels, ces journalistes aussi, et ces hauts fonctionnaires? C'est qu'eux se retrouvent tout à fait dans cette ligne libérale-libertaire. Hein, libéral sur les questions économiques et libertaire sur les questions de société.
Les idées saines, qu'est-ce que c'est ?
Bah, c'est les idées qui font que ça marche. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Nous sommes en train de crever. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? La vérité, c'est la vie. La vie, c'est ce qui marche. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Aujourd'hui, la France va mal, à la fois sur le plan financier, la dette, le déficit est énorme, 11 milliards, le déficit, on s'en fout, 45 milliards d'euros, c'est pas grave. Réalité, pas la fiction, réalité. Pas la fiction, réalité, réalité. Pas la fiction, 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 réalité. Il faut le savoir, les moyens de travailler, les moyens de produire, les moyens de créer des bons produits, le moyen de les vendre, eh bien la France va tout droit à un chômage généralisé. C'est ça la vérité, au chômage. C'est la vie, ils vont de la fiction, les moyens de produire, réalité. Pas la fiction, on vit d'un fiction parce qu'on oublie que l'économie c'est fait pour fabriquer et pour vendre à des clients qui acceptent d'acheter des produits bons, pas chers et de bonne qualité. C'est la vie. Aujourd'hui, la France va mal, bah, c'est les idées qui font que ça marche. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? La vérité, c'est la vie. La vie, c'est ce qui marche. La vie, c'est la vie, c'est la vie. Réalité.
Nous sommes en train de crever. Il faut le savoir. Il faut le savoir.
Voilà, il faut le savoir. On est sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, toujours dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. Alors, on a abandonné les Tollards, Mesrine, les prostituées, les grévistes, Sartre, Clavel et Foucault pour retrouver Marianne Karmitz, Gilbert Trigano, Claude Alfandéry, Alain Minc, François Giroux et Jérôme Sédoux. Fred.
Mais c'est, on parle toujours de Libération, par contre.
Et oui, c'est le même journal, mais ce ne sont plus les mêmes pilotes dans le bateau. Tous les gens que tu viens de citer sont les nouveaux actionnaires de Libération dès 83. Et ils voient dans ce journal, déjà à l'époque, une publication capable de porter leurs idées. Alors pourquoi ? C'est que, au-delà de tout ce qui peut séparer des journalistes, des hauts fonctionnaires, des patrons, c'est que eux estiment qu'il faut moderniser la société. Mais alors, la moderniser, ça signifie la purger des idées de gauche en matière économique et de droite en matière de société. Quand, vous savez, c'est un vocabulaire qu'on entend encore aujourd'hui. Moderniser en matière économique, ça veut dire purger, démolir les conquêtes sociales. Et en matière culturelle ou dans les questions de société, ça veut dire être plus ouvert sur les questions de mœurs, de sexualité, etc., etc. Et cette ligne-là, c'est déjà celle de Libération en 81, et ça intéresse beaucoup tous les gens que tu viens de citer, puisque en matière économique, Libération ne cesse d'égrener, dès le début des années 80, des mots qu'on a tous en tête, hein, et qui rejaillissent à chaque fois qu'il y a une grève, à savoir briser le tabou des avantages acquis, refuser le repli corporatiste, le réalisme, regarder la réalité en face, s'adapter à la nouvelle donne économique, faire des sacrifices pour réussir la mutation. Tout ça, c'est le propos typique de Libération au début des années 80, un propos qui est porté par les jeunes journalistes aux dents longues qui peuplent le service économique, notamment Laurent Geoffrin, donc notre camarade directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, qui reconnaîtra quelques années plus tard, je le cite, « On a été les instruments de la victoire du capitalisme dans la gauche ». Hein, donc là, pour lui, ça a été le rôle de Libération de faire triompher le capitalisme dans la gauche. Et il faut admettre que sur ce point, depuis le début des années 80, Libération n'a pas beaucoup changé. Hein, ce journal a accompagné, a chanté les critères de convergence de Maastricht. Il a chanté aussi « Juppé l'audace » en 95, au moment du projet de réforme de la sécurité sociale. C'était le titre de Libération, c'était « Juppé l'audace ». Hein, il faut aussi s'en rappeler. Et évidemment, inutile de vous rappeler ce qui s'est passé en mai dernier à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne, où cette fois-ci le journal a été vraiment le pédagogue du oui de manière presque caricaturale. Donc le rôle idéologique qu'a joué Libération à la fin au début des années 80 a été quand même très important, parce que cette ligne libérale libertaire a réussi à imposer dans la catégorie des gens qui étaient aisés et cultivés l'idée qu'il y avait un équivalent entre la vieille idée de libéralisme économique et la modernité. Ils ont ripolliné le libéralisme économique en lui donnant les couleurs de la subversion, de l'audace sexuelle, etc., etc. Et du coup, toutes les idées fondatrices de la gauche étaient rejetées dans le camp de l'archaïsme. Hein, l'archaïsme, c'est un mot encore qu'on entend régulièrement. Et Libération, de ce fait, a offert en quelque sorte sa caution au tournant libéral du gouvernement socialiste en 1983-84. Et cette caution était d'autant plus précieuse au gouvernement socialiste qui opérait sa volte-face qu'elle émanait d'un journal encore perçu comme subversif, car héritier de 68, héritier, des idées gaucho un peu des années 70. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose d'important à Libération. Et puis, de manière plus générale, c'est un journal qui a œuvré à redéfinir ce qu'était la gauche. Pendant longtemps, la gauche, c'était briser l'exploitation, briser le salariat, abolir le salariat et la lutte de classe. Bon, dans les années 80, Libération estime, mais d'autres avec lui, ses actionnaires notamment, que la gauche ne se définit plus autour de ça. Et ils essayent de redéfinir la gauche autour d'une espèce de coulis de valeurs qui ne dérangent personne, qui sont tout à fait consensuelles, dont personne ne peut dire que c'est pas bon. Hein. Et par exemple, il y a en 85, il y a un sondage, une enquête, sondage, qui est publié par Libération, c'est le 28 janvier 85, ça s'appelle « Être de gauche, c'est quoi ?» Alors, c'est quoi?
Il se pose toujours la question, d'ailleurs.
Ben oui, 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 il se pose toujours la question, mais là, ils y répondent, et la réponse, c'est un sondage. Et je vous cite les questions du sondage, parce qu'elles sont assez révélatrices de l'état d'esprit de la rédaction de Libération au début des années 80. À votre avis, est-ce qu'on est de gauche, premièrement, avant tout parce qu'on veut lutter contre le capitalisme et construire le socialisme? Ou deuxièmement, avant tout parce qu'on croit à certaines valeurs, comme la justice, la générosité, la fraternité? Et il n'y a pas de troisièmement. Donc du coup, il est impossible d'être anticapitaliste et généreux, ou vouloir construire le socialisme et fraternel. Et logiquement, la majorité des sondés vont répondre deux, hein, avant tout parce qu'on croit à certaines valeurs comme la justice, la générosité et la fraternité. Aussitôt, le journaliste économique de Libération en conclut, je cite, « La gauche de demain doit être plus libérale sur le plan économique et plus dégagée du modèle communiste. » Et ça, c'est typique de Libération des années 80. C'est s'employer à ce que l'économie change de régime, qu'on cesse d'avoir une gauche de gauche et une droite de droite, et qu'on aille vers la République du centre.
Alors, là, ça, c'est incarné aussi. Tout à l'heure, on en a parlé, mais t'as pas voulu répondre à ma question, donc je te la repose. Sur la publicité, et alors, je reste toujours étonné de ce qu'a dit Serge Julie à propos de la publicité. En gros, qui est, c'est pas Libération qui change, c'est la publicité qui a changé.
Et oui, et puis l'introduction de la publicité, c'est quand même une grande rupture dans Libération, parce que elle apparaît en 82, en février 82, et 10 ans avant, presque exactement, le manifeste du journal vous expliquait, je cite, « Il n'y aura pas de publicité car les annonceurs, en finançant la presse, la dirigent et la censurent. » Bon, 10 ans plus tard, la publicité apparaît dans les colonnes, mais plutôt que de présenter ça comme une compromission, la direction, et Serge Julie en particulier, va présenter l'introduction de la pub comme une sorte d'acte de subversion, presque de résistance. Hein. C'est pas du tout pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, c'est pour lutter contre la bien-pensance qu'on fait rentrer les pubs dans Libération. Et alors, effectivement, comme tu dis, Serge Julie va expliquer au lecteur que c'est pas du tout Libération qui se normalise, mais, je cite, c'est la publicité qui se normalise définitivement en rentrant dans Libération. C'est pas Libération qui change, nous dit Serge Julie, c'est la publicité qui a changé. Et le jour, donc le 16 février 82, où la première page de Libération, de publicité est publiée par Libération, Julie explique aux industriels, parce que désormais il ne s'adresse plus aux lecteurs, mais directement aux annonceurs publicitaires, en lui disant, je cite, « Soyez inventifs, nous aimerions que les annonceurs prennent avec nous le risque de la création, des audaces, des provocations. » Donc ça, c'est Libé. C'est le ton Libération, c'est faire de l'argent, mais donner à cette quête de profit l'apparence d'un acte subversif. Vas-y.
Ah ben, d'accord.
Pas que ça vous trouble comme ça.
C'est,
hein.
c'est assez troublant, parce que cette césure là qu'il y a dans l'histoire de Libé, vraiment de... Et ces deux périodes, finalement, parce que la période qu'on connaît aujourd'hui du Libération, donc par exemple, tu parlais tout à l'heure du référendum, finalement, tout ça, ça naît en 81-83. Le mythe du journal de gauche, gauchiste, il s'est évanoui, donc, en 2 mois, finalement, en 81.
Ben, c'est moins un mythe qui s'est évanoui qu'une nouvelle série de contraintes qui a pris le dessus. C'est-à-dire, le premier Libération, on l'a dit tout à l'heure, c'était un projet rédactionnel. Vous avez des militants qui sont marginaux, qui veulent faire passer des idées. Et pour eux, la question économique est tout à fait secondaire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire passer leurs idées. Et puis, peu à peu, le journal se construit comme une entreprise. Et après 81, la rupture de 81, c'est le projet d'entreprise qui va dominer, qui va subordonner le projet rédactionnel. Là, il s'agit moins de faire passer des idées que de faire survivre, croître et profiter l'entreprise qui porte ce projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de publications qui commencent souvent par des militants assez volontaristes et qui finissent par un journal conformiste qui est avant tout une entreprise de presse. Ça a été aussi le cas du Monde, qui est né de la Libération, enfin à la Libération et par la Libération, et qui finit aujourd'hui comme une grande entreprise recapitalisée par Lagardère.
Avec justement un projet, tu parles du Monde, il y a eu un projet à un moment donné de fusion entre Libé et le Monde.
Oui, alors ça c'est un épisode assez peu connu des combats pour la liberté des patrons de presse, parce que vous savez, on assimile souvent la liberté de la presse à quelque chose qui serait on va chercher la vérité, il faut s'informer, c'est bon pour la démocratie, il n'y a pas de démocratie sans presse libre et tout ça. Bon, la plupart du temps c'est du pipeau hein, tout ça. La liberté de la presse, c'est la plupart du temps la liberté des patrons de presse de mener leurs affaires à leur guise. Ça veut dire ça. Bon. Et parmi donc les combats de la liberté de la presse, il y a eu au tout début des années 90 un projet de fusion des deux entreprises, Libération et Le Monde, afin de produire, que cette entreprise produise un quotidien du matin, qui aurait été Libération, et un quotidien du soir, qui aurait été Le Monde. Et les négociations ont été menées par d'un côté Alain Minc pour le compte du Monde à cette époque et par Ribou, le patron de Danone, pour le compte de Libération. Ces négociations n'ont pas abouti, apparemment parce qu'il y avait un conflit de personnes, hein, qui allait être le premier patron. Est-ce que ce serait Julie ou Le Sourne, puisqu'il était le patron du Monde à l'époque. Bon, toujours est-il que ça n'a pas du tout interrompu la marche forcée vers la logique d'entreprise qui avait été celle de Libération depuis les débuts des années 80. Vous savez, quand on commence à mettre la main dans l'engrenage capitalistique, en général, vous ne la retirez plus. En 83, Libération ouvre 10% de son capital à des investisseurs extérieurs. En 96, cette proportion est arrivée à 80%. C'est-à-dire qu'en l'espace de 13 ans, 80% du capital de Libération est passé des mains des salariés qui en détenaient la totalité dans les mains d'investisseurs extérieurs qui se sont rendus maîtres du journal. Et en 96, janvier 96, Jérôme Sédoux, hein, le PDG de Chargeur, rachète Libération. Donc là, Rothschild a acheté 40%, mais à l'époque, Sédoux avait déjà racheté le journal. Et c'est intéressant parce que c'est un journal qui est né en se fondant contre la presse aux ordres, contre la mainmise des patrons sur la presse, contre la presse conformiste, et qui, quelques années plus tard, parce que c'est pas long, 20 ans, devient la propriété d'un des grands capitaines d'industrie français, le journal du conformisme économique, qui n'est même plus maquillé par des audaces sexuelles désormais complètement éventées, hein, publier une photo nue, vous l'avez même dans le Daily Mirror en Angleterre, hein, c'est pas la peine d'aller dans Libération pour trouver ce genre de choses. Bon, voilà, c'est devenu l'antithèse de ce à quoi il se destinait à l'origine.
Il nous manque, il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous manque, il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous manque, il nous manque.
Regardez son nez s'allonge, il nous manque effrontément.
Il nous manque, il nous manque.
S'il a l'air aussi sincère, c'est parce qu'il ment franchement.
Il nous manque, il nous manque.
C'est rien que du blablabla, il a pas un seul argument.
Il nous manque, il nous manque.
C'est à des fins bien précises qu'il nous parle vaguement.
Il nous manque, il nous manque.
On fera pas de concessions, y'aura pas d'arrangement.
Il nous manque, il nous manque.
Il nous promet des embauches, il y aura des licenciements.
Il nous manque.
Pas question qu'on lui laisse faire ça impunément.
Il nous manque, il nous manque.
Et méfions-nous des reculades quand il parle avancement.
Il nous manque, il nous manque.
Ce qu'il veut c'est nous casser purement et simplement.
Il nous manque, il nous manque.
On va lui répondre merde poliment mais fermement.
Il nous manque, il nous manque.
Il y a trop des belles paroles, on veut de vrais changements.
Il nous manque, il nous manque.
Pas de plan sur la comète, un plan de recrutement.
Il nous manque, il nous manque.
Alors voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel. On continue à discuter avec Pierre Rimbert à propos de son livre de Libération de Sartre à Rothschild, qui est publié aux éditions Raison d'Agir. Alors, si on parle de Libération, on peut pas faire l'impasse sur les conflits qu'il y a eu récemment. 4 jours de grève. Éventuellement, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais demain ou dans ces jours-ci, l'éventualité que le conflit à Libération reprenne pour s'opposer à un plan de licenciement. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Libé? C'est les derniers soubresauts, c'est les derniers gauchistes qu'ils n'ont pas réussi à virer depuis 20 ans ou 30 ans d'existence.
Oui, d'abord, l'équipe de Libération, vous savez, il y a trois catégories de personnel. Il y a les journalistes, les administratifs et puis les fabricants. Dans toute l'histoire de Libération, les gens qui fabriquent le journal, les ouvriers de Libération, ont été opposés à la direction depuis le début quasiment. Les journalistes, eux, il faut savoir que c'est la catégorie de personnel qui a voté à une énorme majorité l'entrée du capital, l'entrée de Rothschild dans le capital. Ils étaient enthousiastes, quoi. Et là, c'est assez, enfin, au-delà du réflexe de solidarité qu'on a quand des salariés se battent pour défendre leur emploi, on peut quand même remarquer que ces salariés de Libération, et les journalistes en particulier, ont ressemblé pendant 4 jours, les 4 jours de grève, aux salariés et aux fonctionnaires que d'ordinaire Libération calomnie dans ses éditoriaux. Donc là, il y a un renversement de perspective qui est assez intéressant. À chaque fois que la SNCF fait grève, ce sont des canailles qui sont avachis sur leurs acquis sociaux, etc., etc. Lisez les éditoriaux de Gérard Dupuis. Mais alors, quand c'est Libération qui fait grève, les journalistes qui font grève, là, ils découvrent que bon, le salariat, c'est quand même difficile et que les patrons sont pas toujours des philanthropes. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, pendant cette grève, c'est que le plan social de Libération, il n'a pas été annoncé en novembre. Il avait déjà été annoncé à la fin du mois de septembre. Serge July, dans son vocabulaire inimitable, avait parlé d'un plan d'optimisation de la rédaction. Ça veut dire qu'on allait virer des gens, mais tout le monde avait compris. L'optimisme chez Serge July, l'optimisation, l'optimisme, c'est dégraisser. Entre l'annonce de cette optimisation, entre guillemets, et la fin de la grève, le 25 novembre, Libération n'a pas informé ses lecteurs de ce qui se passait. Vous n'avez pas d'article, à ma connaissance, qui traite de la grève à Libération jusqu'au lendemain de la grève. C'est quand même extraordinaire, parce que c'est pas un marchand de papier peint à Libération. C'est un journal. Le métier des journalistes, c'est d'informer. Et d'une manière tout à fait étrange, ils ne sont pas en capacité d'informer sur le sujet qui est le plus proche d'eux, à savoir ce qui se passe devant chez eux.
Et sur Internet, il y a eu un site parallèle qui s'est créé pour justement informer les...
Exactement. Il y a eu un site qui s'est créé qui s'appelle libellut.org. Mais la création de ce site nous indique à quel point il est difficile pour un journaliste soumis à l'autorité d'un patron de faire son métier. Le métier d'un journaliste à Libération aurait été d'informer ses lecteurs de ce qui se passe à Libération. Mais là, la logique industrielle, c'est-à-dire la volonté du patron, est rentrée en contradiction avec les exigences d'une information de qualité, à savoir informer sur le journal. Et quand on nous parle de liberté de la presse, etc., il faut bien avoir à l'esprit que la liberté d'un salarié de la presse est extraordinairement réduite, à Libération comme ailleurs. Vous avez même un article de la Convention collective de la presse qui stipule qu'un salarié de la presse ne doit en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse qui l'emploie. Un journaliste est quelqu'un qui est subordonné à son patron, et là, on a vu que les intérêts industriels, qui étaient de ne pas informer sur le journal, ont pris largement le pas sur l'intérêt des journalistes, qui était d'informer sur leur journal. Mais il y a une deuxième remarque un peu ironique sur cette grève, c'est que au lendemain, ou même pendant les assemblées générales, l'idée a été émise de l'avenir, enfin, de différents projets d'avenir de Libération. Et parmi ces projets d'avenir, on pouvait lire dans un supplément consacré à la grève, donc celui du lendemain de la grève, je cite, « Et pourquoi ne pas réfléchir à un quotidien gratuit, à des suppléments interlopes ou intrépides? Toutes ces utopies, toutes ces folies sont à l'ordre du jour. » Et alors là, vous êtes quand même un peu frappé, parce que il y a 33 ans, l'utopie, c'était de renverser le monde de la presse, c'était de renverser l'ordre social, c'était de renverser l'ordre économique. Et aujourd'hui, puisque c'est Florence Aubenas qui a proposé de faire de Libération un quotidien gratuit, l'utopie est de transformer le journal initialement fondé par Jean-Paul Sartre en un sac à pub entièrement financé par la réclame. Et on n'a pas idée de la violence de ce retournement. Ça s'est passé dans d'autres journaux. Il y a un journal, un hebdomadaire aux États-Unis qui s'appelait The Village Voice, qui était un journal, un hebdomadaire subversif, qui avait porté la lutte pour les droits civiques des Noirs, des luttes sur la sexualité, etc., et qui aujourd'hui est un journal entièrement gratuit, financé donc par la publicité et détenu par des grands groupes industriels. Et vous savez, on n'a pas idée de la manière dont la publicité, qui est toujours présentée comme séparée du contenu rédactionnel, influe sur ce qu'est un journal. Et pour finir, je voudrais quand même citer le supplément de Noël d'un grand hebdomadaire intellectuel français que le monde entier nous envie Je vais citer le Nouvel Observateur, parce que lorsque vous achetiez le Nouvel Observateur le 24 novembre dernier, vous aviez un supplément qui s'appelle Mon plus beau Noël, hein, le spécial cadeau. Et vous l'ouvrez, et vous tombez sur un éditorial de Laurent Geoffrin, hein, ancien directeur de la rédaction de Libération, ancien responsable du service économique de Libération, et désormais responsable de la rédaction du Nouvel Observateur. Je cite Laurent Geoffrin parce que ses propos, vous allez voir, sont pas seulement bouffons. On peut détester les choses dont Pérec se moquait si bien. On peut dire avec Naomi Klein, nos logos, et avec les haltères, abat les marques. Et même à ses heures perdues, taguer une pub ou dégonfler les pneus d'un 4x4. Bref, on peut douter que le bonheur soit dans l'avoir et proclamer qu'il est dans l'être. Sauf en fin d'année. Noël est une suspension d'armes. À l'ombre du sapin, tous, pro et anti-consommation, se réconcilient. Militants austères ou consommateurs enragés, ils ne connaissent alors qu'un seul défilé, celui qu'ils forment devant les caisses enregistreuses. Et après Noël, ils se rassemblent sous une seule banderole où on lit « solde ». En décembre, les objets inanimés retrouvent une âme et nous donnent la force de les acheter. La matière prend vie, l'objet devient sujet. L'achat n'est pas seulement une utilité pratique, il porte aussi une intention, celle du cadeau. Plaisir égoïste, la consommation devient altruiste. L'obs se devait donc, profitant de cet intermède, d'explorer ce monde pour une fois délivré de l'égoïsme. Car pour Noël, l'achat est un don. La société du moi-je pense soudain à l'autre. Noël, c'est la trêve des possesseurs. Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, l'acheteur de Noël pratique depuis toujours la consommation éthique. Celle qu'on fait pour son prochain. En voici le guide, acheteur moraux, lisez-le. Et là,
c'est beau comme du Serge Julie.
Là, vous avez 50 pages de publicité qui est théorisée par le directeur de la rédaction du plus grand news magazine français comme un acte de subversion, un acte d'altruisme. Et on n'a pas de meilleure illustration de la manière dont la presse peut toujours récupérer à son profit ce qui, en fait, la tue à petit feu, c'est-à-dire l'option marchande.
Voilà, Pierre Rimbert, il y a plein de sujets dont on aurait aimé discuter aujourd'hui, entre autres parler de ce que sont les alternatives, de ce que sont les médias alternatifs, tels que le nôtre, tels que d'autres auxquels j'ai bien compris vous participez. Ça sera pour une prochaine fois, puisque on est très en retard. On va juste rappeler que vous publiez aux éditions Raison d'agir, Libération de Sartre à Rothschild. Ça coûte 6 €. C'est cette petite collection lancée par Bourdieu qui fait un effort d'accessibilité à la fois dans son écriture et dans son édition et dans ses prix aussi, puisque 6 €, voilà.
On va finir en citant Serge Julie. Voici ce qu'il a dit en 1985. Tout m'a profité.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.